Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format Flash. Les projets de Notre-Dame, j'avais envie de dire deux mots là-dessus parce que on a entendu parler pas mal cette semaine, cette idée d'Emmanuel Macron qui veut appliquer la méthode Notre-Dame à des projets industriels stratégiques dans toute la France, où il s'agit en fait d'accélérer les procédures et tout simplement en fait de s'asseoir sur ce que sont les normes habituelles pour permettre d'accélérer des projets industriels notamment. Alors la grande question qui se pose naturellement dans le sens de la simplification et du changement ben, révolutionnaire finalement dans la gestion du rôle de l'État. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va dans le bon ou est-ce que ça va dans le mauvais sens? Naturellement, on a tendance, si on est libéral un petit peu, à se dire, ben, ça va dans le bon sens, ça va débloquer un certain nombre de choses, ça va permettre d'accélérer. C'est vrai. Le problème, c'est que, en fait, ça tient toujours du despotisme éclairé dans l'organisation. Parce que si vous faites une recherche pour savoir qui va décider, quels projets bénéficieront de ces exemptions, en fait, de normes, eh bien, ce sont des projets qui sont décidés par l'Élysée et le gouvernement. Donc, en fait, c'est Emmanuel Macron. Encore une fois, c'est le fait du prince qui va décider qui peut échapper à l'enfer normatif français pour avancer sur un projet et qui ne peut pas. Donc derrière une apparence de libéralisation, en réalité, c'est un accroissement de la concentration du pouvoir encore entre les mains présidentielles et c'est un nouveau symbole d'absolutisme présidentiel. Et ça rappelle également ce qui se faisait à la fin de l'Ancien Régime, puisque vous ne le savez peut-être pas, et peut-être que vous le savez, mais dans l'Ancien Régime était également connu pour être un véritable enfer normatif, qui était gavé de corporatisme, de privilèges, etc. Et c'était une habitude pour la monarchie, quand elle voulait accélérer sur un certain nombre de projets, de conférer des privilèges. Des privilèges exceptionnels pour des manufactures, par exemple, et notamment à la fin de l'Ancien Régime sous Louis XVI, c'est Turgot, vous savez, qui a fait les premières tentatives de libéralisation du pays, mais c'était des tentatives un petit peu dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire l'esprit du despotisme éclairé, c'est-à-dire qu'en gros, c'est à l'autorité suprême et absolue du roi de libérer la population, et pas du tout dans l'idée d'une libéralisation générale du système. Donc toujours tout remonter au prince. Et pour moi, on est encore là-dedans. C'est-à-dire que clairement, ça va dans le bon sens si on essaie de débloquer, comme c'était le cas finalement des réformes de Turgot. Mais vous vous souviendrez que les réformes de Turgot, elles n'ont pas fonctionné, notamment parce que elles ne s'appuyaient pas finalement sur un consensus, je ne vais pas dire démocratique pour l'époque, mais enfin un consensus suffisant dans la population. Et beaucoup de choses que Turgot a essayé de faire, de mettre en place et qui ont rencontré trop de résistance, ça n'a été finalement vaincu que dans la décennie 1790, c'est-à-dire après le début de la Révolution, avec un certain nombre de réformes qui ont permis structurellement de modifier le système. Pour l'instant, on n'en est pas là, et clairement, avec ça, on est encore dans l'Ancien Régime, et j'ai envie de dire le bout du bout de l'Ancien Régime, c'est-à-dire le moment où il y a tellement de normes que le seul moyen de continuer à avancer, c'est en recourant à ce privilège du prince, sans quoi vous êtes totalement bloqué. Et je voudrais croiser ça aussi avec cette information dont j'ai parlé un petit peu dans le Super Live privé, mais je vais en parler là, ici, publiquement. Ces données chiffrées de l'INSEE qui ont été recorrigées et complétées par Polydamas sur X, qui sont extrêmement intéressantes parce que elles montrent en fait tout simplement que le socialisme en France ne fonctionne pas pour les actifs. Et ça, c'est extrêmement important et ça explique une bonne partie du fait que le Rassemblement national soit devenu le parti des actifs en France. C'est-à-dire que le parti qui est le plus hostile au système et auquel le système est le plus hostile, c'est-à-dire celui qui est considéré comme la véritable seule opposition, devient le refuge et le parti de ceux qui travaillent et de ceux qui payent. Parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, il n'y a pas de profit qui est véritablement tiré par les actifs pauvres, y compris pauvres, c'est-à-dire les actifs à faible revenu, du socialisme. Le socialisme, c'est-à-dire la redistribution massive en France, profite essentiellement aux retraités et à ceux qui sont totalement inactifs. Et à l'intérieur desquels, il y a sans doute une partie de gens qui seraient peut-être des travailleurs pauvres, mais qui sont inactifs parce que c'est plus intéressant pour eux de ne pas travailler plutôt que de travailler. Mais quand vous regardez alors bien sûr, les gens qui ont des hauts revenus se font taper dessus, ça c'est connu, vous le voyez, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que vous vous diriez, ben, oui, mais ça permet par exemple aux smicards de mieux vivre, voilà, aux ouvriers qui sont payés avec des petits salaires. de mieux vivre grâce à la redistribution, et vous apercevez qu'en fait, ce n'est pas le cas, ou c'est véritablement pratiquement dans l'épaisseur du trait, à la fois pour les ouvriers et pour les employés. Donc ça explique ça, ce chiffre, que le ras-le-bol finalement des actifs s'appuie sur une réalité fondamentale chiffrée, et c'est clairement, à mon avis, ça, cette conscience du fait que le socialisme ne marche pas, qui devrait amener à la mutation véritablement révolutionnaire de l'économie française, c'est-à-dire celle dans laquelle c'est l'Assemblée qui fera ces réformes antinormatives que le système actuel ne peut pas faire, puisque tout ce que peut faire le système actuel, c'est prévoir des exonérations sans s'attaquer au système de normes, ce que j'appelle le para-étatique à l'heure actuelle. Voilà ce que je voulais dire dans ce petit format flash, parce que c'est une information qui me semble extrêmement importante, parce que moi, comme sans doute beaucoup d'entre vous, je pensais que malgré tout, le socialisme en France profitait d'une certaine manière, même si ça leur coûte aussi en dynamisme économique, mais que ça profitait de manière immédiate par la redistribution à certains salariés à bas revenus. Ben en fait, ce n'est même pas le cas. La réalité, c'est qu'en France, si vous travaillez, vous êtes de toute façon perdant. Soit c'est parce qu'on vous prend beaucoup pour redistribuer, soit c'est parce que vous bénéficiez tellement peu de la redistribution qu'en réalité, ce que vous perdez en dynamisme économique et donc véritablement en croissance des salaires, etc., eh bien sans doute surclasse ce que vous gagnez par cette redistribution. Ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où ce système de redistribution pénalise la totalité des actifs, eh bien on voit mal comment il pourrait se maintenir, puisqu'on voit mal comment un système politique peut se maintenir à l'encontre de la quasi-totalité de la classe des producteurs dans le pays. Voilà, ça me paraissait important à souligner et avoir en tête dans les prochaines analyses que je pourrais être amené à faire sur la situation politique interne de la France. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche surtout si vous êtes abonné, parce que ça aidera à la circulation de ces nouveaux formats. À très bientôt, vous laissez pas faire.